Vous êtes sur RTL.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Le bilan des attentats au Sri Lanka vient de s'alourdir, il est désormais de 310 morts.
Un petit groupe islamiste est fortement soupçonné, mais les autorités ont acquis la certitude qu'il n'a pas pu agir seul. Les attaques visées des chrétiens nous feront le point dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, les véhicules les plus polluants bientôt bannis de la proche banlieue parisienne. La mesure s'appliquera le 1er juillet, mais certains maires dénoncent une mesure antisociale et veulent se faire entendre. Et puis l'enseigne C a en grande difficulté, la marque de prêt-à-porter s'apprête à supprimer 120 postes.
Dans 13 minutes, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Vous surfez avec la campagne des européennes.
Ah oui, une campagne ? On m'avait pas prévenu.
De météo d'ici 7h.
À Grasse, dans les Alpes-Maritimes, les pluies seront soutenues toute la journée avec du vent, parfois des orages et 15 degrés cet après-midi. RTL Matin.
Le bilan s'alourdit encore au Sri Lanka.
310 personnes ont été tuées dimanche lors des attaques suicides qui ont visé des églises et des hôtels. Le pays vient de respecter 3 minutes de silence en hommage aux victimes. Ce mardi est une journée de deuil national. Les attentats n'ont toujours pas été revendiqués 2 jours après. L'enquête se poursuit. 40 personnes ont été interpellées. Pour l'instant, les autorités soupçonnent un petit groupe islamiste, tellement petit d'ailleurs, qu'il a dû recevoir une aide extérieure. Béatrice Adjaj.
Ce groupe islamiste local, le NTJ, n'a pas pu agir seul. Le porte-parole du gouvernement en est certain. Certes, son leader, un certain Abdul Razik, a déjà fait de la prison pour incitation à la haine, mais dans les faits, le NTJ s'était limité à vandaliser des statues bouddhiques, le bouddhisme étant la religion majoritaire au Sri Lanka. De là à envoyer 7 kamikazes commettre cette série d'attentats bien planifiés, cela paraît impossible aux experts. Ils estiment que cet obscur mouvement islamiste a dû recevoir le soutien d'un réseau terroriste international, style Al-Qaïda ou l'État islamique, deux organisations qui depuis des années essayent de s'implanter en Asie du Sud-Est, d'y recruter de plus en plus de militants capables de passer à l'action. Mais alors que ces attentats n'ont pas été revendiqués, les autorités reconnaissent qu'elles avaient été alertées de l'imminence d'une attaque par un service de renseignement étranger. Cependant, l'information ne serait pas remontée au Premier ministre.
Béatrice Adjaj, alors que les discussions sont dans l'impasse avec Donald Trump, Kim Jong-un va rencontrer sans doute cette semaine Vladimir Poutine. Il le fait savoir ce matin, ce tout premier sommet entre le dictateur nord-coréen et le président russe pourrait avoir lieu à Vladivostok.
RTL, 6h33, un pompier devant la justice aujourd'hui à Paris.
Il passera en comparution immédiate, il a été interpellé samedi en marge de la manifestation des Gilets jaunes dans la capitale. Il est soupçonné, Thomas Proutot, de faire partie des casseurs des Black Blocs.
Absolument, et le jeune soldat du feu de la caserne d'Oni dans Val d'Oise va devoir expliquer pourquoi il transportait du matériel incendiaire samedi matin à Paris. Les policiers qui l'ont contrôlé et interpellé ont en effet découvert dans son gros sac siglé sapeur-pompier une série de feux d'artifice et plusieurs cocktails Molotov ainsi qu'une banderole anti-flic à l'effigie du Black Bloc selon un syndicat de police. Après 48 heures de garde à vue, le parquet de Paris a donc décidé de le renvoyer immédiatement devant le tribunal pour détention d'engins incendiaires et groupement en vue de commettre des violences. Chez les pompiers du Val d'Oise, c'est la stupeur et l'indignation. C'est ce que le service départemental d'incendie et de secours a écrit dès ce week-end dans un communiqué. La hiérarchie du casseur présumé annonce son intention de prendre des sanctions très lourdes en cas de condamnation. Cet agent, conclut le communiqué, n'a plus sa place chez les sapeurs-pompiers et ne reflète pas leurs valeurs.
Thomas Proutot, information RTL de Serge Pueyo à Grenoble. Le chirurgien suspendu par le Conseil de l'Ordre des médecins pour des opérations du dos ratées est visé par une enquête préliminaire pour mise en danger de la vie d'autrui. 7 anciens patients ont déjà porté plainte, mais ce chiffre devrait bientôt grimper puisque des dizaines d'autres patients se sont signalés depuis la diffusion des premiers témoignages sur RTL il y a 2 semaines. Certains de ces patients ont raconté avoir dû se faire amputer. Ils sont aujourd'hui en fauteuil roulant.
C'est jeudi qu'Emmanuel Macron tirera officiellement les conséquences du grand débat.
Intervention reportée à cause de l'incendie de Notre-Dame. La semaine dernière, le chef de l'État fera une conférence de presse. Ce sera 18h. Il devra notamment détailler ce qu'il entend par faire travailler davantage les Français. Le débat a ressurgi ces derniers jours. Il reviendra aussi sur l'une de ces mesures symboliques qu'il avait prévu d'annoncer, la suppression de l'ENA, dont il est pourtant issu. Mesure facile et démago pour ceux qui défendent l'institution, Marie Mollet.
Oui, de nombreux énarques ont le sentiment d'être jetés en pâture aux gilets jaunes. Une mesure insultante, disent-ils, qui balaie d'un revers de main leur travail de haut fonctionnaire. Parmi eux, Adeline Baldacchino, qui défend une réforme en profondeur de l'ENA, mais pas sa suppression.
Dire qu'on supprime l'école, c'est à la fois une forme de désaveu des hauts fonctionnaires et une forme de lâcheté. parce que ça ne répond pas à la question qui est le contenu de la formation. C'est une manière de faire des énarques, des boucs émissaires un peu commodes.
Supprimer l'ENA, une mesure d'affichage, disent-ils, un coup de com' pour David Gilbeau, promotion Orson Welles.
Si je pense, moi, à ceux qui sont en administration centrale, qui travaillent de 8h à 22h, ce sont les fonctionnaires qui prennent sur leurs épaules la surcharge de travail pour que la baraque tienne, oui, c'est insultant aujourd'hui.
Mais pour Alain Minc, major de sa promotion en 1968, il faut en tout cas que les lieux de pouvoir puissent recruter ailleurs qu'à l'ENA.
Recruter par des concours beaucoup plus ouverts pour que les élites soient respectées, il faut qu'elles soient représentatives de la diversité de la société.
Des énarques qui restent suspendus aux annonces du président Macron jeudi soir. Il devrait dire si oui ou non il compte enterrer l'ENA et par quoi. Il la remplacerait.
Marie Mollet.
Allez, après la pause dans ce journal, l'étau qui se resserre encore un peu plus autour des véhicules les plus polluants. Tendez l'oreille juste après ça sur RTL.
RTL.com RTL Matin,
Julien Cellier.
Et la suite de votre journal à 6h37 sur RTL. En Ile-de-France, au moins 200 000 véhicules sont concernés par la nouvelle mesure anti-pollution. Elle s'appliquera dans un peu plus de deux mois maintenant.
Tous ceux affichant une vignette critère 5 n'auront plus le droit de circuler dans Paris et sa proche banlieue à partir du 1er juillet. Il s'agit de tous les modèles antérieurs à 97 et de tous les diesels datant d'avant 2001. Certains élus commencent à monter au créneau en criant à l'injustice. Alors, rappelons le principe avec vous, Christophe Bourou.
Après la capitale, donc, les restrictions de circulation vont être étendues à 78 autres communes de la métropole du Grand Paris, c'est-à-dire à toutes celles situées à l'intérieur du périmètre délimité par l'autoroute francilienne, la 86, y compris le périphérique et les bois de Vincennes et de Boulogne. Sinon, gare au PV de 68 euros. Alors environ 200 000 voitures seront officiellement concernées, celles qui disposent actuellement d'une vignette critère 5, ce à quoi il faut rajouter, selon certains élus, tous les véhicules qui roulent sans cette fameuse vignette. Au total, cela toucherait pas moins d'1 million d'automobilistes. La métropole Grand Paris offre entre 3 et 5 000 euros aux particuliers qui souhaitent remplacer leur voiture par un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Mais déjà, certains maires sont remontés contre cette mesure qu'ils qualifient d'antisociale, avec, disent-ils, d'un côté ceux qui pourront s'acheter un véhicule plus propre et tous ceux qui n'auront pas les moyens.
Christophe Bourou.
Et à 7h20, invité d'Yves Calvi, le maire de Clamart, Jean-Didier Berger, qui dénonce une mesure antisociale.
L'industrie textile se porte mal en France. Nouvelle illustration avec l'enseigne C&A qui pourrait fermer une quinzaine de magasins. La chaîne de prêt-à-porter souffre notamment de la concurrence de la vente en ligne, Eric Vanier.
Cela fait 3 ans de suite que C&A comprime son réseau en France. 13 magasins vendus en 2017, 8 l'an dernier et 14 cette année en perspective. Sauf que là, ce ne sont plus des cessions à d'autres enseignes avec reprise du personnel, mais des fermetures pures et simples avec comme conséquence 120 suppressions de postes. Un plan social. Maria Rodriguez, déléguée Force ouvrière, essaye de comprendre pourquoi C&A en est arrivé là.
Peut-être des mauvaises stratégies d'entreprise qui ont été faites les dernières années par des anciens directeurs. Et puis, on ne vend pas non plus. Il y a la concurrence et le pouvoir d'achat des consommateurs aussi. C'est dans tout l'habillement, c'est compliqué en ce moment.
La concurrence de la vente en ligne, mais aussi de nouvelles enseignes qui cassent les prix comme Primark. C&A a essayé de se repositionner, de réduire la taille de ses magasins pour miser sur la proximité. Mais pour l'instant, en vain.
Eric Vanier, enfin le démarrage raté du nouveau Samsung, le géant sud-coréen de smartphones, devait lancer cette semaine son tout premier modèle de téléphone avec écran pliable, 2 000 $ tout de même. L'opération est reportée, de nombreux échantillons envoyés à la presse se sont avérés défectueux. Les écrans étaient visiblement plus cassables que pliables.
C'est fâcheux, c'est fâcheux. Merci beaucoup Jérôme, à tout à l'heure.